Je sais pas ce que vous pensez, chers amis, la moquerie, est-ce qu'une bonne chose ou une mauvaise chose? Lorsqu'on se moque de quelqu'un pour un attribut ou un handicap, une habitude ou une imperfection physique, c'est cruel de faire ça, c'est arrogant. Au lieu de trouver la dignité de toute personne grâce à la création de chacun d'entre nous, malgré nos différences à l'image de Dieu, la moquerie de ce genre essaye de rendre nos différences un tremplin pour se croire supérieur. Une telle moquerie est méchante. Méchante. Mais il y a une moquerie qui joue une autre fonction, n'est-ce pas? Une moquerie qui sert à démontrer à quel point une personne qui se vante de ses capacités, qui se croit supérieure aux autres, est ridicule de faire ce qu'il fait. C'est permissible, donc, pour un professeur, peut-être vous connaissez ceci dans votre expérience, de calmer un élève qui se croit être tout sage pour exposer les lacunes dans les connaissances de cet élève en faisant exprès de lui demander tout d'un coup, de lui poser quelques questions qui démontrent que cet élève n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. Oui, c'est de la moquerie, mais c'est pour le faire descendre un rang ou deux, parce qu'il s'est mal déplacé en croyant qu'il était plus avancé qu'il était. Et la Bible est remplie d'exemples de ce genre, deuxième genre de moquerie. Car hélas, la Bible est aussi remplie d'exemples d'hommes orgueilleux, méchants, qui ont un regard pour leur gloire qui n'est pas saint. Notre monde, encore aujourd'hui, on vient d'entendre ça, n'est-ce pas, Honor qui veut, à plein de telles personnes aujourd'hui. Tout au long de la Bible, nous voyons une telle folie, en fait. Et 1 Samuel ne fait pas d'exception. Les événements de ce livre soulignent cette vérité. Et pour ceux qui ont écrit des psaumes pendant cette période, le matériel sur lequel ils basaient la réflexion qu'on trouve dans quelques psaumes. Par exemple, le psaume 2 que Robin nous a lu au début. « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Depuis le chapitre 15 d'1 Samuel, le roi d'Israël, Saül, il sait qu'il a été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. Et nous savons, à partir du chapitre 16, que Dieu a déclaré à travers le prophète Samuel que David, c'est son oint, le roi qu'il a désigné pour Israël. Et à partir du chapitre 18, nous l'avons vu la semaine dernière, Saül commence à s'opposer à David. C'est lui le tenant du titre royal, mais Dieu a choisi un autre. Nous voyons donc Saül qui s'élève, pour redire les mots du psaume 2, et qui se ligue contre loin de l'Éternel. Et dans ce chapitre 19, donc, il y a 4 tentatives de Saül, chacune qui échoue, tentative de faire disparaître David. Et je pense que nous sommes censés à rire avec l'auteur divin. Car quelle est la réponse de Dieu à ceux qui se liguent contre lui? Le psaume 2, de nouveau, nous l'avons lu, verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit. » Le Seigneur se moque d'eux. Et cette moquerie est légitime, chers amis. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est nécessaire. David lui-même réfléchissez à ce qui lui est arrivé dans ce chapitre 19. Et je vous encourage cet après-midi d'aller lire le psaume 59. Cela s'inspire du chapitre 19 de 1 Samuel. Et que dit-il au verset 9 du psaume 59? « Mais toi, l'Éternel, » il réfléchit sur ces événements et il dit « Toi, l'Éternel, tu ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. » Alors, on va essayer de voir maintenant, plus ou moins rapidement, comment, dans ces quatre tentatives qu'il y a de faire disparaître David, ultimement, le Seigneur se moque de ceux qui s'opposent à son roi choisi. Alors, la première tentative se trouve dans les sept premiers versets. On peut peut-être juste les projeter derrière si vous voulez suivre. Vous retrouvez de temps en temps les versets dans votre texte que vous avez. Donc, la première tentative, c'est David délivré de Saül grâce au plaidoyer de Jonathan. Le chapitre démarre avec Saül qui dit ouvertement à son fils et à tous ses serviteurs qu'il faut carrément maintenant tuer David. Il ne mâche plus ses mots. Cela met, bien entendu, Jonathan dans une position difficile, dangereuse, car, verset 2 nous le dit, Jonathan avait une grande affection pour David. Nous l'avons vu la semaine dernière, que Jonathan s'est allié du côté de David. Il était admiratif de ce que David a pu faire pour Israël. Il a pu délivrer Israël des mains des Philistins. Et au lieu d'être menacé, lui, Jonathan, par la pensée qu'il n'héritera pas, lui, le trône de son père Saül, parce que c'est David qui va devenir roi, non, Jonathan, il affirme son allégeance du côté de David. Et dans verset 2, il informe David du plan de son père. Et il lui dit qu'il essaiera de raisonner avec lui. Tellement porté dans son esprit contre David, Saül ne s'imagine jamais qu'un membre de sa propre famille pourrait faire cause commune avec son ennemi. Mais si, tel est son aveuglement, celui de Saül. Et c'est souvent le cas, n'est-ce pas, pour les puissants de sous-estimer la capacité de leur lieutenant de ne pas vouloir les suivre. Mais parfois ça arrive, par orgueil, de ne même pas imaginer que cela pourrait être le cas. En tant que Britannique, moi je me souviens toujours de Mrs. Thatcher. Vous vous souvenez d'elle? La dame de fer qui avait son sac à main, etc. Premier ministre britannique pendant un bon bout de temps. Alors elle traitait pendant des années l'un de ses lieutenants avec un certain mépris. Il s'appelait Geoffrey Howe. C'est un détail. Mais parce qu'elle traitait cet homme avec du mépris, elle perdait le pouvoir lorsque ce ministre démissionnait du gouvernement de Thatcher. Elle croyait avoir sa loyauté, mais ce n'était pas le cas. Et puis Jonathan, donc, se met du côté de David. Et donc il raisonne avec Saül ici. Le fils, vous comprenez, doit apprendre au père que le roi, qui est son père, ne doit pas commettre du péché à l'égard de David. C'est ça ce qu'il lui dit. Péché, c'est un mot sérieux. On ne dit pas cela de quelqu'un d'autre légèrement. Surtout si ce quelqu'un d'autre, c'est ton père. Et encore plus si ce quelqu'un d'autre, c'est ton roi. C'est humiliant de dire ça. Mais c'est vrai. Quand Jonathan rappelle Saül de tout le bien que David a fait pour Israël, pour Saül, l'Éternel a opéré, dit-il, une grande délivrance pour Israël. Tu l'as vu et tu t'en réjouis. C'est vrai. Mais cette joie n'a pas duré. Elle était accompagnée, nous l'avons vu déjà la semaine dernière, de jalousie, de la peur. Ses sentiments n'étaient pas nobles. Et Jonathan le savait. Et donc il expose ses sentiments en mettant l'accent sur ce qui devait être la bonne réponse. D'accueillir, remercier David. Et donc Jonathan conclut, « Pourquoi pécherais-tu contre le sang ?» Innocent, il ferait-tu sans raison mourir David. Et que se passe-t-il? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant. David ne mourra pas. Le bon sens, donc, semble être de retour. Jonathan, verset 7, il appelle David et il lui donne le compte-rendu de son entretien avec le roi. Et puis il l'amène auprès de Saül et David reprend son activité auprès de Saül. Et au verset 8, on dirait que tout va bien. David marche contre les Philistins. Il remporte une victoire éclatante. Magnifique. Mais, Saül de nouveau tourne contre David. Et donc, David, deuxièmement, est délivré de Saül grâce à la vivacité d'esprit. On ne savait pas trop comment mettre un titre pour cela, et donc je pense qu'il y a même une erreur dans le feuillet. On s'excuse pour cela. Mais on ne sait pas combien de temps il y avait entre le verset 8 et le verset 9. Mais tôt ou tard, entendre parler une fois de nouveau des victoires de David, ça agace Saül, n'est-ce pas ? À un point que le mauvais esprit venant de l'Éternel, dit le texte, était sur lui. Oui, Dieu souverainement confirme les mauvaises intentions de Saül. Il endurcit Saül dans sa mauvaise voie. Signe dans la Bible de jugement de la part de Dieu pour le rejet de l'Éternel de la part de l'homme, ici de la part de Saül. Cela faisait le cas dans le passé avec Pharaon, vous vous souvenez de cela. Et cela se fait encore aujourd'hui, nous dit l'épître de Romains, où Dieu nous livre à ce que nous désirons. C'est un signe de jugement de sa part. Et donc voilà, Saül, assis dans son fauteuil, avec sa lance dans la main. Ça fait un peu mauvais signe, n'est-ce pas ? Il est en train de lire sa Bible, ou je ne sais pas quoi. Il a sa lance dans sa main. David est dans la même pièce. On imagine David quand même un peu avec un œil sur lui, tout de même, en connaissant son histoire. Et donc, du coup, oui, il y a une attaque violente, non sollicitée, de la part de Saül. Et David, vif, on le suppose, dans son esprit, a pu s'échapper et puis s'est enfui. Ouh ! Merci Seigneur. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Qu'à la fin du verset 8, c'est les ennemis du peuple de Dieu, les Philistins, qui prennent fuite et qui ont dû éprouver une grande défaite. Et deux versets plus tard, nous voici devant ce même David qui, lui, doit prendre fuite à son tour. Où est l'ennemi dans son cas ? L'ennemi, c'est le roi d'Israël lui-même. Troisième épisode. David délivré de Saül grâce à la déception de sa fille, Michal. Cette prochaine délivrance est celle que le texte consacre le plus de temps à nous décrire. Et de nouveau, la surprise, c'est ce que c'est un autre membre de la famille de Saül qui est l'instigateur de la délivrance. David donc se retrouve chez lui après l'attaque de Saül, mais Saül envoie ses serviteurs pour faire son sale boulot, de faire mourir David. Mais encore une fois, il n'a pas tenu compte du fait qu'un autre membre de sa famille s'alliait avec David. Erreur. Et donc, elle avertit David de l'arrivée de ces hommes. On ne sait pas comment elle savait que ces hommes allaient venir. Peut-être Saül lui a dit dans son palais, elle rentre pour l'avertir. Soit elle arrive, elle avertit David à temps, verset 11, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Et donc elle aide David à descendre par la fenêtre. Ça nous fait rappeler de Rahab, n'est-ce pas ? Il se peut qu'un côté de la maison se donnait sur le mur de la ville qui permettait cette fuite efficace. Mais son aide ne s'arrêtait pas. Non, elle prenait ensuite le teraphim, le Rita m'a aidé à la bonne prononciation de ce mot, ajoute une peau de chèvre et couvre l'ensemble d'une couverture. Elle fabrique un genre de mannequin pour faire croire aux hommes que David est dans son lit et qu'il est malade. Le teraphim, nous les avons déjà rencontrés dans ce livre. Lorsque Samuel, au chapitre 15, explique à Saül le sérieux de son péché, il dit au verset 23 du chapitre 15 que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphims. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est ça ce que Samuel a dit à Saül. Le téraphim, donc c'est une idole. Et ces idoles païennes n'avaient pas de place dans l'adoration d'Israël. Mais voici, il y en a une dans la maison de la fille du roi. Mais Michal démontre ainsi son mépris pour ce compromis au sein d'Israël, dont son père était la source. Et elle fait son mieux pour que loin de Dieu soit protégée. Elle gagne du temps pour son mari, quand cela provoque un retour de Saül de la part de ses gens. Lorsque Saül confronte Michal au verset 17, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le complot est dévoilé, elle ment pour se protéger. Il se peut ici que la Bible permette le mensonge dans son cas. Tel est le mal que Saül, le puissant agresseur, cherche à faire. Que peut-être ici, le mensonge est permis. Mais ce n'est pas clair. Ce qui est clair, au moins, c'est l'hostilité dans le mensonge fait preuve envers son père, tellement qu'il est venu tordu dans son raisonnement. Donc, David délivré une fois de plus par la déception de la fille de Saül. Et dernièrement, David délivré de Saül grâce à l'Esprit de Dieu. C'est le dernier épisode. Une fois échappé, qu'est-ce qui se passe? David retrouve le vieux prophète Samuel. Saül apprend la nouvelle, verset 20, et encore une fois, il envoie ses hommes pour prendre David. Mais lorsque ces gens arrivent sur place, c'est comique. Ils voient une assemblée de prophètes qui prophétisaient avec Samuel et contre leur volonté. Le texte dit que, verset 20, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent à prophétiser eux-mêmes. Que signifie la prophétie dans cet instant? C'est difficile à savoir, à vrai dire. Mais il s'agissait des paroles, éventuellement, qui louaient Dieu, peut-être des chants, des actions de grâce, sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Mais l'accent ne tend pas ici sur le contenu des prophéties, non, mais sur le fait que ainsi le plan de Saül de saisir David est une fois de plus confondu. Dieu renverse les intentions mauvaises. Et malgré eux, ils se joignent à Samuel et ses prophètes. Une deuxième fois, Saül envoie d'autres gens, mais la même chose arrive. Une troisième fois, la même chose. Et puis, une dernière fois, c'est Saül lui-même qui y va. Et oui, même pour lui, le chapitre termine avec la remarque au sujet de Saül. Saül est-il aussi, donc, parmi les prophètes? Cette phrase-là avait été dite à son sujet au début de son appel. Au chapitre 10, verset 11 de 1 Samuel, on a dit la même chose. Et à ce moment-là, on regardait Saül et l'on se disait l'un à l'autre parmi le peuple, qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? Est-il aussi parmi les prophètes? C'était un signe de puissance à ce moment-là que le Seigneur l'avait désigné à être le roi. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Cette même phrase ici au chapitre 19, sert pour souligner que Saül n'est plus le roi, mais un homme soumis à la volonté du prophète Samuel. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Il ôte ses vêtements, il se débarrasse de ses habits royaux, ce que Jonathan a fait de manière volontaire au chapitre 18 pour reconnaître à quel point David était désigné par Dieu. Maintenant, Saül le fait de manière involontaire. Il se trouve par terre, tout nu. C'est humiliant pour le roi d'Israël. Donc voilà, quatre tentatives de faire disparaître David dans ce chapitre. Et si vous patientez encore juste quelques minutes, on va essayer donc de de conclure, de donner deux implications par rapport à l'ensemble de ces différentes histoires. D'abord, je pense que nous devons comprendre la motivation qui se trouve dans l'opposition à loi de Dieu, à Christ, à Jésus, qui est le roi ultime désigné par Dieu. L'opposition à Christ, l'opposition au peuple de Christ, est souvent irrationnelle. Saül, comme Jonathan, connaissait David. Il savait que Dieu l'utilisait puissamment pour délivrer le peuple. Jonathan, lui, démontre la réponse positive par rapport à David, de faire preuve d'une grande affection pour le roi choisi par Dieu. Mais Saül choisit le contraire. Ce n'est pas rationnel, cela. Lorsque Jonathan raisonne avec Saül à propos de David, Saül ne pouvait pas nier la vérité rationnelle de ce que disait Jonathan. Mais toutefois, il cherche à le tuer. Et c'est important à savoir ça. L'opposition à Jésus-Christ, le roi désigné par Dieu, n'est jamais bien fondée. Elle est toujours motivée par un raisonnement irrationnel, un refus de faire face à la réalité. C'était le cas avec Jésus lui-même, rappelons-nous. Au lieu de libérer Jésus, un homme innocent, la foule a demandé qu'on relâche Barabbas, qui a commis un meurtre. Au lieu de reconnaître la bonté et la grâce de Jésus, ils ont crié « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Nous voyons le roi qui se donne à la croix pour son peuple. Mais ceux qui s'opposent à lui voient quelqu'un qui les menace. Ce n'est pas rationnel cela, chers amis. Et ça reste encore irrationnel aujourd'hui, l'opposition au peuple du Christ. J'ai appris hier lors de l'AG des GBU qui travaillent parmi des étudiants que les GBU demandaient une salle à Louvain-la-Neuve pour l'une de leurs réunions et ils ont été refusés. Décision non motivée. Non motivée, bien sûr. C'est irrationnel. Peut-être on me dira que parfois la réaction négative par rapport aux chrétiens aujourd'hui est en partie parce que la façon de faire de ces chrétiens est maladroite. Oui, peut-être c'est vrai de temps en temps, mais il n'en reste pas moins que même le rejet de la foi chrétienne est toujours irrationnel. Nous avons dans notre assemblée des conjoints qui ne permettent pas que leurs épouses ou époux parlent de Jésus-Christ à la maison. Est-ce raisonnable, bien fondé, une telle opposition? Non, pas du tout. Cela les agace, les menace tout simplement. Si vous avez essayé de témoigner de Jésus-Christ à vos voisins ou à vos amis ou à un collègue, vous risquez, oui, une réaction irrationnelle. Des gens qui vous évitent éventuellement par la suite. Jusque-là, tout était bien. Et puis tout d'un coup, ils ne vous parlent plus. C'est désagréable. Ce n'est pas poli. Mais nous devons nous attendre à cela. C'est aveugle même. Saül n'était pas forcément conscient qu'en cherchant la vie de David, il se mettait en opposition à loi de Dieu. On ne lui a pas encore dit explicitement à Saül que David était celui qui était choisi par Dieu. Il a eu des indices, mais ce n'était pas clair à 100%. Mais toutefois, même s'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, ce qu'il faisait en réalité, c'était de s'opposer aveuglement à loi de Dieu. Bah, tous ceux qui rejettent Jésus comme leur roi aujourd'hui, nous devons l'avouer, ne le font pas forcément en étant conscients de ce qu'ils font. Ils peuvent être dans un centre plutôt sympa. En poursuivant une vie de confort, d'amitié, de sécurité, de modération, des pieux péchés, si on veut, d'ici ou là, ils ne disent pas qu'ils s'élèvent contre l'Éternel et contre son roi, non. Mais cela ne change rien. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Utiliser, par exemple, des expressions comme « mon Dieu » ou « nom de Dieu » ou « grand Dieu », ce n'est pas forcément fait, n'est-ce pas, de manière intentionnelle. C'est une façon de parler, ces gens diront. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Mais c'est ça le problème, chers amis. Ils sont aveugles à la réalité que ces expressions signifient quelque chose. Même si cela donc semble innocent, c'est dénigrer ultimement le Dieu qui est derrière ces attributions. C'est de prendre Dieu à la légère. Et nous devons aussi remarquer que l'opposition à Christ, dernier aspect, est méchante. C'était un mauvais esprit que Saül avait. C'était méchant de s'opposer à Christ, de le condamner à mort. C'est encore méchant de vouloir contrer injustement la cause de Christ aujourd'hui. Chercher à se débarrasser de Christ et de son autorité n'est pas neutre. Oui, peut-être on ne veut pas commettre un meurtre, nous, mais s'opposer à la volonté de Jésus-Christ, c'est méchant. Et c'est pour des mauvaises motivations que nous le faisons. Comprendre donc la motivation qu'il y a derrière l'opposition à Christ, c'est important. Et cela nous mène donc à ce dernier point, qui est de comprendre que toute opposition à Christ est vouée à l'échec. C'est important cela pour nous ce matin, de comprendre que toute opposition est vouée à l'échec. Parfois, voyez-vous que c'est le peuple de Dieu. Ici, en Occident, en Afrique, c'est vraiment qu'ils sont menacés parfois avec leur vie. Mais souvent pour nous, en Occident, le peuple de Dieu, ils peuvent se sentir ridiculisés, marginalisés pour leur foi. Ces chrétiens ont dit avec leur croyance simpliste, ou avec leur slogan tellement offensif, ou leur pensée dépassée ou démodée, leur éthique tellement intolérante pour notre société occidentale, leur esprit tellement carré dans ce qu'ils croient. Ce genre de ridicule est encore de l'actualité, chers amis. Jésus lui-même devait faire face à la moquerie, n'est-ce pas? Hein? T'as pas pu sauver des autres? Tu as pu sauver des autres, mais tu sais pas te sauver toi-même? Jésus ridiculisé par des soldats qui ôtaient ses vêtements lors de son arrestation. Les soldats, par contre, lui ont donné un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils lui posaient sur la tête. Et ils se mettaient à genoux devant lui pour se moquer de lui en disant « Voici le roi des Juifs !» Oui, pendant un temps, la puissance semblait être ailleurs qu'avec Jésus lui-même. Dans tous ces quatre épisodes que nous avons vus, la puissance est avec Saül au départ chaque fois, n'est-ce pas? C'est lui le roi, c'est lui le père de Jonathan et Michal. C'est celui qui tient dans sa main sa lance, c'est lui qui envoie des gens vers la maison de David, vers Samuel, à Najot. Il avait la force. Et c'est tellement facile, chers amis, de se croire fort dans notre opposition à Jésus-Christ. Mais le chapitre termine, nous l'avons vu, avec de la moquerie de la part de Dieu au sujet de Saül. C'est lui qui ridiculise les tentatives de Saül, qui confond Saül à tous égards. Oui, même si pendant un moment cela ne semblait pas être le cas, la vraie puissance se trouve toujours à côté de Christ. L'Éternel n'est pas menacé par la moquerie. L'Éternel, il rit de ceux qui se moquent d'eux. Il est temps aujourd'hui, chers amis, si vous vous trouvez du côté de ceux qui rejettent la volonté de Dieu, de devenir disciples de Jésus-Christ, de reconnaître que Jésus est le roi choisi par Dieu. Il est temps aujourd'hui de comprendre que votre opposition est vouée à l'échec. Pendant un moment, ça a l'air de marcher, ça c'est vrai, mais pas à long terme, pas à long terme. Et donc, nous devons comprendre que Jonathan, lui, se dépouillait de ses vêtements royaux volontairement. On se souvient de cela? C'était la bonne réponse. Saül devait le faire au chapitre 19 à sa femme, involontairement. On peut, nous, fléchir le genou aujourd'hui volontairement, en nous tournant vers Christ. C'est la bonne réponse. Mais si on ne choisit pas de faire ça volontairement aujourd'hui, un jour, nous devons le faire involontairement. C'est ça ce qu'affirme le Nouveau Testament. Jésus nous dit, l'apôtre Paul en Philippiens, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, donc, soit nous le faisons aujourd'hui, dans l'adoration, dans la reconnaissance, soit on ne nous obligera de le faire par contrainte dans le jugement. Et donc, nous, chers amis, nous qui avons fléchi le genou devant Dieu, devant le Christ, mais nous devons prendre courage, car nul ne peut aller à l'encontre de sa volonté pour toujours. Peut-être on se trouve dans des situations d'opposition, difficiles, découragement, par rapport à tous ceux qui sont autour de nous, qui semblent être puissants. Mais nous devons prendre courage, chers frères et sœurs, parce que Christ est le roi. Il emportera la victoire finale. Cela n'est pas en doute. Encourageons-nous les uns les autres que Christ est notre roi. Je vais prier ensemble. Merci Seigneur pour Jésus, le roi qui règne. Et merci que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort à la croix pour que nous puissions connaître ta bonté, ta grâce. Aide-nous à persévérer en tant que disciples de Jésus-Christ, à suivre notre roi malgré l'opposition. Donne-nous d'être équipés pour persévérer et donne-nous d'être réconfortés par cette victoire ultime. Que ton roi, le roi Jésus-Christ, il a sur toute opposition. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.